Et alors,
où est-ce que se trouvait cette usine alors?
En bas, quand on arrive de Saint-Céret,
oui.
En bas là, il y a la route qui va sur Bétagne là.
Oui.
Eh bien, le moulin et l'usine étaient là, côte à côte. Le moulin était plus vieux que l'usine.
Oui. Mais... Cette usine fournissait l'électricité à Carénac alors?
Ah oui, Carénac et Gramat.
C'était dans quelles années ça?
C'était dans les années. Écoutez-moi, je l'ai vu ça. Donc, ça devait être dans les années. Je suis né en 25. En 35 ou 36, encore ça marchait comme ça. C'était les vieilles lignes qu'il y avait. Seulement, ça avait, il n'y avait pas assez de chutes. La Dordogne de la Drague, quand les gens là-haut, jusque ici un peu plus bas, il n'y a que 76 cm de dénivellation. Vous comprenez? Alors ça ne suffit pas. Et c'était même gênant pour les meuniers de Carénac, parce que quand les Dunoyers faisaient la retenue là-haut pour pouvoir faire tourner l'usine, les autres n'avaient pas d'eau. Hein. Et quand les autres utilisaient l'eau, ils faisaient aussi la retenue, les Dunoyers ne pouvaient plus faire fonctionner leur matériel parce qu'il n'y avait pas de chute. Il y a eu des procès retentissants.
Ah oui.
Ah oui, oui, oui. Ah oui.
C'est combien il y avait de moulins, là? Il y avait combien de moulins?
Il y en avait trois. Il y avait celui de l'Ermitage, des Dunoyers. Il y avait le moulin du Bosquet, qui est ici, pas loin de Carénac, là. Et le moulin de Fouché, beaucoup plus bas, là-bas. Ça, là, vous comprenez, la Dordogne n'est pas très pentue, ici, hein. Il n'y a rien à faire. Alors, si peu qu'une crue amène des galets, ça modifie complètement la pente. Ils étaient toujours en train de s'engueuler. Les Dunoyers étaient fermiers de l'État pour les droits de passage.
Ah oui.
Ce qui fait que, en plus de leur industrie, ils touchaient du fric de gens qui passaient leurs engrais. Ils avaient le droit de porter leur récolte dans la plaine à Carénac sans payer. Mais ensuite, quand ils l'emportaient pour la vendre, il fallait qu'ils paient le droit. Vous comprenez? Et c'était les Dunoyers qui étaient fermiers de ce droit de passage. Ça a duré, ça. De toute façon, le pont existant maintenant a été construit en 39-40. On ne payait plus de droits pour passer. Et ma mère se souvenait quand les gens qui faisaient payer les droits habitaient là-bas. C'est pas si vieux que ça.
Ils passaient comment? C'était un bac? C'était un bac.
Et avant, c'était des vaches. Les vaches appartenaient aux habitants de Carénac. Mais comme toutes les choses qui sont, gérées par une communauté importante, c'était pas organisé, et personne n'avait envie de faire réparer les bacs. Ils faisaient eau de toutes parts, il fallait tenir des copées si on voulait traverser, ce qui fait qu'en 1500, les gens de Carénac ont laissé les bacs aux religieux. C'est le doyen de Carénac qui s'est chargé d'entretenir les vagues de passage, en 1500. Et par la même convention, Ils ont gardé le droit de pêche, parce que les gens de Carénac avaient le droit de pêche. C'est pas partout pareil. Mais il y a eu une restriction. Ils ont gardé le droit de pêche, mais les religieux s'étaient réservés de pouvoir acheter leurs poissons 2 heures avant l'ouverture du marché. Mais à cette époque-là, du poisson, il y en avait. Tant qu'on voulait.
Alors évidemment...
Vous l'avez lu dans les archives municipales, ça ?
Hein ?
Vous l'avez vu dans les archives municipales, tout ça ?
Oui. Oui, oui.
C'est intéressant.
En 1500. Et alors, ils ont pris en main l'entretien des barques, et puis ça a duré... Bon.
Après, et vous, quand vous étiez petit, là, les bacs, ils étaient en bois encore ?
Oh, quand j'étais petit, il n'y en avait plus.
Il n'y en avait plus.
Oh,
il y avait le bois.
Ah.
Mais le dernier bac, ils ont été en bois, les derniers bacs ?
Ah oui. Il y avait deux bacs à Carénac, il y avait un troisième au port de Salle, là-haut. Et c'était à cette époque-là, les Dunoyers qui étaient fermiers. Les droits de passage. Il y a des lettres à la mairie, là-haut, où on... parce qu'eux faisaient comme les habitants de Carénac. Ils prélevaient les droits de passage, mais ils n'entretenaient pas le bac. Alors le préfet les a obligés à entretenir ces bacs. Il y a une lettre où il a exigé que les Dunoyers soient présents au bord de l'eau quand les représentants de l'administration viendraient. Je l'avais même, cette lettre, je l'avais bien par ici. Je l'avais donnée au Quercy Magazine. Il a publié. Et alors, donc, ils ont été obligés d'entretenir le bac. Et ce sont les Dunoyers de Seconda qui ont construit le premier pont suspendu sur la Dordogne. Mais ils étaient quand même fermiers des droits de passage. Et ce pont s'est rompu. Alors, c'est pas difficile. Ma mère devait avoir 10 ans par là. Elle était née en 1892, donc c'était en 1902. Environ. Seulement le pont était vieux. Et puis, en bois, et ce sont des charretiers qui transportaient les grumes, qui sont passés sur ce pont, ils ont mis trop de poids dessus, et quand ils en étaient au milieu, le pont a pété, ils sont tombés à l'eau. Ouais. Et alors, à ce moment-là, l'administration a fait un pont en fer, mais le tablier était en bois. Il y a eu une grosse fête sur le pont parce que l'administration ne faisait plus payer de droits de passage. Alors ça, les droits de passage...
Du coup, les gens de Carénac ont fait la fête.
Ah oui, oui...
C'est votre mère qui vous l'avait raconté ?
Hein ?
C'est votre mère qui vous l'avait raconté ?
Ah oui, mon arrière-grand-père avait toujours dit, quand l'administration achètera le pont, moi je passe avec les sabots sur les câbles d'un côté à l'autre. Et il y avait 3 câbles, c'est gros comme ça là, ça faisait une... Quand on arrivait en haut des piles, là-haut, c'était... Bon. Alors, quand ils ont fait quand ils ont eu terminé le pont, ils lui ont dit, maintenant, Cairol, tu t'exécutes. Tu avais dit que tu percerais, il faut que tu... Oh, Pas de problème, je me cherchais un demi-litre de gnole. Il a bu son demi-litre de gnole et il a passé tout droit avec le sabot sur le câble. Voilà.
Il le racontait en patois, ça?
Ah oui.
Contava en patois.
Oui. Oh, à cette époque-là, oui. Eh oui.
Vous l'avez entendu le raconter, vous?
Ah, moi, je l'ai entendu raconter par mon grand-père en patois. Ouais. Parce que je parlais, quand je suis allé à l'école, je ne parlais pas le français. J'étais les trois quarts du temps avec mon grand-père, qui lui, le français. Il fallait voir comment il écrivait. Alors, ce qui fait qu'il ne parlait pas, il ne parlait pas le...
C'est lui qui était meunier, votre grand-père?
Non, c'était moi, son beau-père.
Ah, son beau-père.
Ouais. Son beau-père était meunier, c'est du noyer là-bas.
C'est ça. Vous l'avez raconté déjà.
Ouais. Lui, non. Non, il s'était. Il était de Mesel, moi. Les barrières étaient de Mesel. Ah, toute oui. la famille était. Il y en a encore d'ailleurs. Et il s'était marié ici. Mais l'affaire n'a pas marché. Parce que. À Carenac, ici, il n'y avait pas de puits, il n'y avait pas de citerne. Il fallait chercher l'eau aux sources. Il y avait une source là-haut, une autre par là. Et il a voulu faire un puits. Bon, son beau-père lui a dit, comment tu sais que vous allez faire ce puits? Et il n'est pas difficile. Je vais aller chercher de la poudre et je vais faire péter la poudre. Il lui a dit, non, non, non. Tant que je vivais, vous ne ferez pas péter la poudre à côté de la maison. Alors ils ont commencé à se brûler comme ça, ce qui fait que mon grand-père a préféré se tirer de là. Il a commencé par faire l'entrepreneur de travaux publics. Bon. Mais je ne blague pas, j'ai des certificats attestant qu'il était capable de... Il n'avait jamais eu le truc à la main, rien du tout. Oui. Bon. Et puis, après, il s'est mis à faire l'expéditeur de fruits. Il achetait les prunes, les noix, etc. Mais c'est qu'à l'époque, il y en avait ici. Et là, il y avait gagné des sous, mais c'était pas un homme d'affaires. Il y a dépensé tous les sous qu'il gagnait. Et oui. Alors, quand mon arrière-grand-père est mort, il avait 81 ans. Mais il travaillait toujours chez Dunoyer. Et là, il avait fait sa tournée, il n'a pas pu rendre la farine. C'est mon grand-père qui l'a rendu. Mais il y avait des sacs qui faisaient plus de 100 kilos. Et à 81 ans, il avait chargé le sac tout seul. Et mon grand-père, 80... Et oui. Mais c'était... Il travaillait dur. Ouais, c'était des résistants, hein.
Ouais, ils étaient solides. Ouais.
Ça n'existe plus maintenant. Je ne sais pas si on peut s'en féliciter ou le regretter, mais à l'époque, il travaillait trop pour pas grand-chose. Mmh. Eh oui.
Il y en avait qui faisaient l'extraction du sable, là, dans la Dordogne. Non ?
Non, pas à cette époque-là. À cette époque-là, quand quelqu'un voulait construire une maison, il allait dans ce qu'on appelle les borgnes, c'est-à-dire les atterrissements de la Dordogne. Il regardait où c'est qu'il y avait du sable, il allait se servir, un point du tout. Oui. Il n'y avait pas de problème.
Et les galets, c'était utilisé les galets dans la construction ou dans autre chose?
Non. Dans la plaine. Dans la plaine, vous aviez des galets, même des maisons. Qui était construite avec des galets. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et c'était... Alors, ils utilisaient les plus gros galets, évidemment, en faisant un coffrage de chaque côté. Mais le galet n'était pas utilisé ici. Même dans la plaine, vous voyez, on n'en trouvait pas beaucoup de maisons. C'était plus difficile à façonner. Parce que il n'y avait pas de four à chaud ici. C'était les fabricants de tuiles qui faisaient à chaud. Quand on allait commander la tuile pour une maison, ils bâtissaient un four en pierre, ils faisaient cuire la tuile, et la pierre cuisait en même temps, mais elle était mal cuite. Alors, ils faisaient un trou dans la terre, ils mettaient la pierre mal cuite dans ce trou, et ils attendaient qu'elle se délite toute seule. Et au bout d'un certain temps, après, ils la passaient au triple. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans le carénage, dans le mortier, encore, il y a des grumeaux qui restent, qui ne sont pas délités. Et puis voilà. Donc, c'était ceux qui faisaient la tuile et qui faisaient la chaux. Après, plus tard, il y a eu quelques fois à chaud, pas des masses. Hein. Il y en a un qui existe encore, voilà, en bas, là. Il y en a, mais autrement, la chaux était faite par ceux qui fabriquaient la tuile. Et oui.
Comme artisanat, alors, il y avait beaucoup d'artisans dans le village, surtout le bois, là.
Ah oui, vous aviez des maçons. Les maçons taillaient la pierre. Ils taillaient pas la pierre comme pour faire des œuvres d'art comme dans l'église. Hein? Ça, c'était sculpteur, ça. Mais la pierre de taille qui servait à faire les angles, les linteaux, c'était les maçons qui le faisaient. J'ai un linteau en bas, là, qui venait de la grange à côté. Et quand un voisin a vu que je le prenais, il dit, tu sais pas, il m'a dit, tu me fais le plus grand plaisir, parce que ce linteau, c'est moi qui l'ai taillé. Et j'avais peur qu'on le casse. Et bon, il est beau, le linteau. Alors, c'est ce genre de pierre... étaient travaillés par les maçons. Voilà. C'était eux qui faisaient les chiffres sur les linteaux, etc. Pour le reste, c'était des écoles de sculpteurs. Oui. Vous comprenez ? Oui. Alors, vous aviez des maçons, et généralement, les maçons faisaient faire ces choses-là aux arpètes. Aux apprentis, ça leur permettait de les engueuler. Et il fallait bien que quelqu'un apprenne. Et alors, bon, et ils apprenaient, comme ça. Il y avait des plâtriers, bien sûr, mais il y avait aussi des artisans qui faisaient le torchis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a bâti avec du torchis très longtemps après les maisons en pierre qu'on voit ici à Carénage. Elles ont été bâties, il y avait un soubassement en pierre. Mais tout le reste était en torchis. Moi, je l'ai vu, ça. Comment ? Alors, le torchis, pour faire le torchis, ils allaient dans un endroit où il y avait de la terre glaise, ils bêchaient, un bon peu profond, ils y mettaient de l'eau, ils ramollissaient cette terre, et ils y portaient de la paille d'avoine. Parce que la paille d'avoine, elle est molle. Comme moi. Ce qui fait que, il foulait la paille d'avoine avec les pieds, et la paille d'avoine leur faisait pas mal. S'ils avaient foutu de la paille de seigle dedans, ils auraient eu des morceaux de...
Ouais, voilà. C'est dur le seigle.
Alors ils faisaient, on appelait ça faloubar. Donc, quand la paille d'avoine était bien enduite de glaise, alors, ils montaient... Ces maisons étaient à pan de bois. Il y avait soit une saignée dans le pan de bois, soit des trous pour enfiler les bâtons. Et on passait cette paille d'avoine enduite de glaise sur ces bâtons, on la croisait comme ça. Et puis une fois que c'était... Ça allait vite, hein. On le lissait comme il faut, et ils y faisaient des trous pour pouvoir mettre un enduit à la chose dedans. Voilà comment c'était fait.
Et les gens qui travaillaient le bois, il y en avait aussi.
Ah, ben oui, ça. Les gens qui... Ici, vous aviez les charrons, les menuisiers, les charpentiers, et même les tonneliers. Souvent, les charpentiers faisaient aussi les tonneliers. Ils faisaient les cuves, les... Ah ouais. C'est pas...
À une époque, il y a eu beaucoup de vignes.
Alors, sous l'Ancien Régime, dans la commune de Carénac, il y avait à peu près, je ne vous dirai pas un chiffre précis, mais il y avait plus de 100 hectares de vignes. Quand on a fait le cadastre en 1816, les matrices cadastrales les premières matrices cadastrales étaient de 1820. J'imagine que c'était les mêmes chiffres, on n'était pas revenu les vérifier. Il y avait 174 hectares de vignes en 1820.
Et après, il y a eu le phylloxéra.
Et après, il y a eu le phylloxéra. Alors ici, nous avions plusieurs cépages. Nous avions... On appelait ça l'œil de perdrix. C'était un raisin qui avait le grain petit. Il y avait le pinot et un autre cépage qu'on appelait l'étrère. Et l'étrère, je pensais qu'il n'y en avait plus. Eh bien, c'est pas fini. L'étrère, il y en a encore. On se sert de l'étrère pour faire les vins du Crédit Vaudan. Et ici, l'étrère, c'était le cépage dominant. Et c'était des vins qui étaient bons.
Et les fruits aussi, alors, il y a eu beaucoup de prunes ou de...
Des prunes, oui, il y avait beaucoup de prunes, parce que dans les vignes, les gens plantaient des prunes. Et puis, vous savez, il y en avait au bord des prés, ça poussait partout. Le prunier, Reine-Claude de Carénac, on n'avait pas besoin de le greffer. Vous alliez arracher un drageon au pied d'un prunier Reine-Claude, vous le passiez un peu plus loin, il donnait la prune Reine-Claude. Belle et bonne. Mais c'est encore vrai, ça, hein. Ouais.
C'est complémentaire, l'agriculture là, de la vallée avec le Causse. C'était complémentaire un peu.
Bah, pas tout à fait quand même. Parce que les gens du Causse ne possédaient pas beaucoup de terrain sur les pentes, ni dans la plaine. La plaine de Carénac n'est pas grande. C'est tout petit. Et par contre, il y a à peu près, à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais quand j'étais maire, ça se divisait, il y avait à peu près un tiers de la commune en landes ou en bois.
Et ça, c'était le COS. Ça fait beaucoup.
Oui.
Les pentes ont été plantées en vigne.
C'est ça.
Donc, les cossetiers là-haut n'étaient pas riches.
Et la plaine, c'était plutôt le chanvre ou un truc comme ça?
Dans la plaine, on cultivait beaucoup de chanvre, oui. Le Conoval.
Le Conoval. Il y a des endroits qui s'appellent comme ça encore?
Oh non.
Non,
non.
Parce que non. Des fois, il y a des noms. Mais...
C'est perdu, le nom, maintenant.
C'est perdu.
Oui. Mais moi, je l'ai entendu prononcer.
Oui.
Alors, le Conoval, là. Alors, c'était une terre sablonneuse, le champ, vous voyez, poussé à 2 mètres ou 3 mètres de hauteur.
Et des fois, il n'y avait pas des terrains qui étaient emportés par les crues ou...
Oh là. Alors là, c'était quelque... Vous savez, la Dordogne avait des crues subites, comme ça l'hiver, inégées. D'abord, il y avait beaucoup plus de neige sur les hauteurs que maintenant. Moi, je me souviens avoir vu les hauteurs là au-dessus de Saint-Céré, vers l'Eyme, vers tout ça, blanches tout l'hiver. Tout un coup, il venait un coup de vent d'ouest, la neige fondait, d'un coup. La Dordogne enflait, et toute la terre qui avait été labourée, elle partait à Libourne là-bas. Ce qui fait qu'il restait que il fallait recommencer. C'est certain que la Dordogne a contribué largement à appauvrir le sol de la plaine ici. Pas simplement de carénage. Hein. Et ouais.
Les grandes crues, c'était... Vous souvenez-vous qu'il y a eu des grandes crues?
Oui. Nous avons eu des crues importantes en 1949, en 1952, en 1956. L'eau de la Dordogne est passée sur la route de Saint-Céré.
Là, la rivière trimballait de tout, là.
Ah oui, là. Vous savez, quand l'eau avait été partie, on voyait les raies de labour, le soc. Les gens étaient économes. Donc, le soc de la charrue, il le faisait forger par le forgeron, autant que possible. Mais il y avait un moment où il se rétrécissait. Alors, entre chaque raie du soc, il y avait un petit monticule de terre comme ça, là, dur. L'humetto. Et alors, on voyait très bien ce que la Dordogne avait emporté. Et voilà. Ça allait ailleurs. Alors, vous aviez des endroits où elle en laissait. C'est toujours pareil. Les alluvions ne sont pas régulières. Dans la plaine ici, nous avions un champ. Une année, il a porté cette hauteur de sable, hein, à peu près. Un chien. Et le sable, c'est pas difficile à travailler, mais c'est sec. J'ai passé tout un hiver, moi, à trimballer le sable sur les autres parties des champs. Où il n'y en avait pas.
Vous aviez des terrains, vous, dans la plaine, oui.
Hein?
Vous aviez des terrains dans la plaine, oui.
Et c'était pas marrant. Oui. Alors, vous aviez des îles qui se formaient, d'autres qui disparaissaient. C'est ça. Vous aviez un seuil qui se formait. L'eau y amenait le gravier. Bon, c'était le plus gros qui restait là, évidemment, le plus lourd.
Et insensiblement, après, un peu plus loin, c'était les plus petits. Et puis à la fin, c'était du sable mélangé à de la vase ou des trucs comme ça. Alors sur cette partie-là, ils poussaient des arbres. Ils poussaient principalement des saules et des peupliers noirs. Vous comprenez? Et une fois que c'était enraciné, là, ça partait pas. Donc, chaque hiver, la Dordogne ramenait d'autres saletés et l'île s'agrandissait. C'était
automatique.
Et alors, une fois que l'île était agrandie, il fallait bien que l'eau passe quelque part. Elle passait d'un côté ou de l'autre, quelquefois des deux côtés. Et oui. Alors, déjà, d'ailleurs, il y a tout.
Le paysage se modifiait sans arrêt.
Hein?
Le paysage se modifiait sans arrêt.
Sans arrêt. Je vous l'ai dit là, j'ai des plans de l'île Calypso. Je dois en avoir 3 ou 4. À différentes époques. Il n'y en a aucune de pareil. Même maintenant, le plan que nous avions fait en 73, il n'est plus du tout.
Pourquoi ça s'appelle Calypso?
Parce que vous savez qu'on a eu, un doyen ici qui s'appelait Fénelon. Et Fénelon avait écrit un livre. Fénelon a été. On l'avait exilé d'ailleurs à cause de ça, parce qu'il donnait des leçons au roi de France, mine de rien, et il n'aimait pas beaucoup ça. Alors, il avait écrit un livre, plus ou moins tiré de l'Iliade et l'Odyssée, où il parlait de la déesse Calypso. Alors, il paraît que c'était l'île qui avait en face Carénac qui lui aurait donné cette idée. On prétend qu'il a écrit ici, ça, rien n'est moins sûr. Hein. Mais d'ailleurs, il a écrit une ode à Carénac qui commence comme ça. Dans ces îles fortunées, de rameaux verts couronnés, la nature a rassemblé tout ce que mon cœur désire.
C'est joli.
Et voilà. Alors, avant ça s'appelait l'île Barade. Mais quand il a eu écrit Calypso, on a préféré lui donner ce nom.
L'île Barade, c'est le barrage un peu, Barade, c'est là qui barre.
C'est-à-dire que elle était grande, cette île. Et Barade, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait un bras qui faisait le tour, qui était beaucoup plus petit que l'autre. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait ce bras? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais il avait acheté une île attenante à l'île Barade, et quand il avait passé l'acte, il n'avait jamais dit s'il achetait cette île pour les religieux ou pour lui.
Oui.
Ce qui fait que, à la Révolution, le dernier représentant des Fénelon, le chevalier de Fénelon, a réclamé cette île. Bon, mais il restait ici 4 religieux qui ont dit non, cette île, Fénelon l'avait achetée pour les religieux. Il y a eu un procès en cours au Parlement de Toulouse qui a donné raison aux religieux. Seulement, comme le bien des religieux ont été pris comme bien nationaux,
oui.
Et bien ils n'ont pas gardé cette, cette île. Et la commune de Kerennac l'a partagée, cette île, en parcelles à peu près égales, à 12 ou 13 arbres, etc. Seulement, il y avait de beaux arbres, et les gens n'étaient pas contents, parce qu'il y avait des parcelles où il y avait des arbres, d'autres où il n'y en avait pas. Alors, le conseil municipal s'est réuni pour mettre fin à la querelle, et a dit, voilà, nous allons raser tous les arbres, avec cet argent, nous, nous protégerons le haut de l'île qui est en train de s'éroder là-haut, et puis les gens seront tranquilles. Ça, c'est sur les délibérations du conseil municipal. Et c'est l'agent, l'agent national, Cyprien Moreau, qui l'a proposé cette affaire-là.
C'était intelligent.
Mais,
c'était intelligent.
Eh ben, oui. C'était la, la seule solution pour mettre tout le monde d'accord. Et ça a été accepté à l'unanimité, ce qui fait que... Alors l'île Calypso se tenait presque avec cette île Barade, qu'on a appelée à cette époque-là l'île de Grand Bourgneau. Il y avait un bras de rivière, là, et pour amener l'eau au moulin du Bosquet. Il y avait une digue. Cette digue prenait appui sur l'île Calypso, passait devant l'île Barade et amenait l'eau ici, là. D'ailleurs, j'ai la carte, hein. Si ça peut vous intéresser.
Oui.
Je vais. Et alors, au-dessus de l'île Calypso, il y avait le chemin, enfin, le chemin, le bras qui venait de l'Ermitage, et au-dessus de l'Ermitage, il y avait une autre digue qui faisait 800 mètres de long. Mais la, la digue de l'Ermitage n'était pas immergée.
Ah oui.
Il y avait un passage pour les bateaux. Il y avait même deux. Il y avait un passage pour la pêche et un passage pour les bateaux. Et l'île qui amenait l'eau au moulin de, du Bosquet devait être immergée.
Oui.
J'ai le décret présidentiel de 1913 qui règle le fonctionnement de ce moulin. Si ça vous intéresse. Eh oui. Bon, c'était...
Et des familles de... Des familles de... De mariniers, là. Il y en avait ici, déjà.
Ah non.
Non. Ils venaient tous de d'ailleurs.
Les gavariers venaient de la Haute-Dordogne.
Ouais.
De Spontour, de par là-haut. Il n'y avait pas de, de mariniers ici. Il y avait par contre... des familles qui vivaient de la pêche.
Oui, bien sûr.
Ils n'étaient pas riches, mais ils vivaient comme ça. Et oui.
Les derniers pêcheurs qu'il y a eu, c'est qui, dans la commune?
Oh. Vous en avez encore un. Il n'y a pas vécu que de la pêche, mais enfin. C'est Boudy.
Comment vous l'appelez?
Boudy. Boudy. Louis Boudy. C'était un braconnier. C'est un braconnier parce qu'il vit encore.
Il est âgé,
ouais.
Il est âgé.
Il a 80... entre 80 et 90 ans. Mais il n'a pas vécu de la pêche à Kerennac tout le temps, puisqu'il était parti à Paris, il tenait un restaurant avec sa femme. Mais revenu à Kerennac, il s'est remis à pêcher. Vous aviez, à un moment donné, quatre familles qui vivaient exclusivement de la pêche. Ici.
C'est pas mal.
Eh oui. Et alors, nous avions un garde-pêche Le garde-pêche, il les connaissait tous. Et périodiquement,
oui,
périodiquement, il réunissait tous les pêcheurs et il leur disait, voilà, il me faut un procès-verbal. Il faut que je fasse du service. Sinon, on me foutrait à la porte. Il me faut un PV. À qui je le fais? Ils s'en foutaient. Alors, c'était toujours le même à qui on faisait le procès verbal. Les autres, on lui payait l'amende. Seulement, à la fin, c'était comme récidiviste. Il avait passé quelque temps à la maison du roi, à Cahors là-bas. Il en était venu, ma foi. Il mangeait mieux à la maison du roi que chez lui.
C'était l'organisation, ça.
Eh oui.
Je ne sais pas si on trouverait quelqu'un aujourd'hui pour faire ça.
Non, non, pas maintenant. Pas maintenant. Et ça se faisait. Et voyez, c'est pas si vieux que ça. La maison de ce bonhomme, j'étais gosse, moi je devais avoir 5 ans, 5 ans, 6 ans. J'en ai 78 maintenant, parce que ça fait bien un peu. Mais elle est tombée un matin à 5 heures.
Oui, ça.
Alors je sais pas, il était à l'hosto, lui, il était vieux, pardon. Et tout d'un coup, à 5 heures du matin, un fracas épouvantable. Tout le monde s'est levé, c'était la maison de Chapelle et puis c'était foutu par terre. C'est pas. Il y a 70 ans à peu près.